Qui est donc celui qui vient? On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, un dernier sondage d'Opinion Way montre que 67%, donc 2 Français sur 3, n'ont pas la foi. Ils se passent de Dieu. Alors, quand vient la question « Qui est celui qui vient à Noël ?», c'est un gros point d'interrogation. On attend le Père Noël, ça c'est à peu près sûr. D'ailleurs, vous allez le voir, il va faire de l'escalade, généralement il fait du rappel sur... Regardez les vitres du premier étage, puis alors il descend en rappel, des fois il se met dans les cheminées. Donc on est à peu près sûr qu'il va venir, mais sinon, bon, pour le reste, on ne sait pas. Qui est celui qui vient? C'est une question qui est importante. Nous devons préparer notre cœur pour accueillir celui qui vient, celui qui revient. Ce matin, je voudrais qu'on remette les choses à l'endroit. Oublions la musique brésilienne, humilions les trois chalets qui se battent en duel. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Qui est celui qui vient? Si vous avez une Bible avec vous, Maïté, est-ce que la Bible est fiable? Oui, c'était le thème hier de Pulse. La Bible est fiable. Au premier chapitre du premier livre, qui s'appelle Genèse, commencement, le premier verset dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Ce matin, nous allons lire toute la Bible jusqu'à la fin. Donc, prévoyez de ne pas manger. Non, on va faire un peu en accéléré quand même. « Au commencement, Dieu créa » au chapitre 1 du premier livre de la Bible, Dieu se présente comme créateur. Ça va jusque-là? Donc le chapitre 1, Dieu se présente comme créateur, et s'il est créateur, nous sommes donc... Et il y a trois qui suivent. S'il est créateur, nous sommes donc créatures. Merci. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Chapitre 2. Dieu créateur donne un commandement à sa créature. Verset 17, il dit « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » En hébreu, « tu mourras, mourras ». C'est-à-dire, essaye donc, tu verras, c'est vrai, ça va se passer. Tu mourras, mourras. Donc, au chapitre 2, Dieu se présente comme législateur. C'est quoi un législateur ? C'est celui qui fait les lois. C'est celui qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est un législateur. Est-ce qu'on a des législateurs aujourd'hui? Oui, qui font des lois d'ailleurs très intéressantes. On y reviendra après. Néanmoins, si Dieu est législateur, ça veut dire que nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nos actes envers celui qui est le législateur. Ça va jusque-là? Ok. Donc chapitre 1, Dieu, créateur, l'homme, créature. Chapitre 2, Dieu, législateur, l'homme, responsable. Ça va? Jusque-là, tout va bien. Chapitre 3, l'ennemi de Dieu, l'adversaire, vient voir Ève. Alors bien souvent, on dit que c'est la faute de la femme, que vraiment, c'était... Dieu avait créé un brouillon avec l'homme, il avait créé la perfection avec la femme qui venait après. Mais alors là, souvent les hommes disent, alors, bravo la perfection. Sauf que l'homme, il était à côté, n'est-ce pas? Il était juste à côté. Donc l'ennemi de Dieu vient voir la femme et l'homme qui est juste à côté, et il dit... Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il remet en question ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qu'on appelle un dogme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et l'adversaire de Dieu met en doute cette vérité-là, ce dogme-là. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Et la femme dit, elle répète le commandement de l'Éternel, et l'ennemi dit, il fait comme ça, il fait... Il fait n'importe quoi. Non. Vous ne mourrez absolument pas. C'est marrant, absolument pas. Alors que Dieu avait dit, vous mourrez, absolument. Hein. Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Comme Dieu. À savoir que si vous mettez en cause Dieu, à ce moment-là, vous deviendrez Dieu à sa place. Donc ça veut dire que Dieu sera une créature, parce que vous serez le créateur, vous serez législateur, et donc Dieu sera bien responsable. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est inverser les rôles. C'est prendre sur soi les prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Alors le péché, c'est peut-être la chose la plus difficile à expliquer, mais c'est celle qui est pratiquée par tout le monde. C'est extrêmement démocratique. Quand vous demandez aux gens si Dieu était devant toi, quelle question est-ce que tu aimerais lui poser ? 99% des questions que les gens voudraient poser envers Dieu, ce sont des questions de l'ordre moral, à savoir... Dieu a un problème et il le sait pas. Hein? Parce que s'il était vraiment nananana, alors pourquoi nananana? D'accord? Si Dieu était tellement bon, pourquoi ceci? Si Dieu était tellement puissant, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ça? Et donc Dieu a un problème. Dieu est responsable des maux de ce monde. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'aimerais pas être à la place de Dieu le jour du jugement dernier parce que ses oreilles vont siffler. C'est ça, le péché. C'est dire à Dieu, t'es bien gentil, tu descends de ton trône. Descends. Allez, bouge. Et moi, je monte. Et de là-haut, je juge. C'est bien ce que Sartre avait dit. Que Dieu existe, de toute façon, on ne sait pas. De toute façon, il doit être de l'autre côté, là-bas, il est occupé. Le monde est une scène où nous sommes nos propres metteurs en scène. Nous devons décider ce qui est bien et ce qui est mal parce que Dieu ne peut pas le faire à notre place et il ne veut pas le faire à notre place. Vous connaissez la génomie ? Vous ne connaissez pas la génomie ? C'est la science des gènes. C'est très intéressant qu'au jour d'aujourd'hui, la tentation que l'homme soit créateur est plus prégnante qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Pour $300, vous pouvez envoyer un petit flacon de sang et on va vous envoyer votre carte génétique. C'est un premier pas. La tentation est grande de devenir créateur. Et pour ceux qui suivent un petit peu la veille législative, vous savez que les enjeux éthiques sont sur la table. Sont sur la table en ce moment. On est tout à fait dans le péché. L'homme est législateur, il accuse Dieu d'être responsable des maux, l'homme est créateur et va faire même de Dieu une créature. Déjà, Emmanuel Kant disait que Dieu était le postulat de la raison pratique. C'est une hypothèse qui est des fois nécessaire pour dire aux gens, si tu ne te comportes pas bien, tu vas recevoir la fessée de quelqu'un qui est plus grand que toi. Qu'est-ce que fait la femme? Qu'est-ce que font l'homme? Ils pêchent. Ils enfreignent la volonté de Dieu. Ils se substituent eux-mêmes à Dieu. Ils deviennent Dieu. Et ils meurent. Pas physiquement, puisqu'ils continuent à respirer. Mais regardez quel type de mort s'ensuit. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, verset 7, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. La honte. La honte. Premier compagnon. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Naissance de la mode. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent. La peur. Deuxième compagnon. Cependant, l'Éternel Dieu appelle l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Oh, j'aime bien ça. « Où es-tu ? » Comme si Dieu ne savait pas où ils étaient. « Planqués, ils vivent. Ils vivent planqués dans les tranchées. » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu. J'ai eu peur parce que j'avais la honte. Alors je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est pas moi, c'est elle. C'est bien de ta faute. Je t'avais dit de me laisser tout seul. » Maintenant, mais non, toi tu veux faire une aide semblable à l'homme, alors que, voilà. Et ben voilà le résultat. Voilà, bravo, on applaudit, et tous les animaux avec. Formidable. Puis Ève dit, c'est pas moi, c'est lui. Très intéressant. Mais ce sont des créatures de Dieu, c'est donc Dieu qui est responsable de tout ça, on est bien d'accord. Vous voyez qu'avec la mort, il y a trois nouveaux compagnons. Le premier, c'est la honte. Le deuxième, c'est la peur. Le troisième, c'est la culpabilité. La culpabilité. Et lorsqu'on s'en sent coupable, on accuse les autres. C'est plus facile. Donc avec la mort, il y a trois nouveaux compagnons. La honte, la culpabilité et la peur. C'est ça les résultats de la mort. C'est ça les résultats de la mort. Et au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, on en est toujours là. Où l'homme vit planqué, il a peur, il se barricade. Je me souviens, c'était quand on était arrivé à Loche en 2010, on avait une tradition dans la famille, c'était de faire des petits cookies, des petits gâteaux de Noël pour les donner aux voisins. Alors, je m'aventure dans notre rue, je sonne, je ressonne une deuxième fois, une troisième fois, il faut dire qu'il était 16h30, 17h, la nuit était déjà quasiment tombée. Un volet qui s'ouvre au premier étage, c'est qui ? Les autres voisins qui commencent à ouvrir le volet. Il y a une manifestation dans la rue. 3, 4, 5 voisins, c'est à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe ? Alors j'ai dit, c'est le voisin d'à côté, et des petits gâteaux pour vous offrir pour... Je mange pas les gâteaux ! Ben, c'est pas grave, peut-être que vous pourrez les donner à vos enfants. J'ai pas d'enfants ! Ben, peut-être si vous avez des amis. J'ai pas d'amis ! Bon, alors là, t'avais tout le voisinage qui regardait la scène. Les gens vivent planqués. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils regardent la télé et se disent, ça se passe dans ma rue. On est à Marseille. À Loche. Los Angeles. Et les gens vivent barricadés les uns derrière les autres. Ils ont peur de leurs voisins. Et puis quand il y a un problème, c'est toujours la faute de l'autre. Toujours. C'est jamais de sa faute. C'est elle, c'est le machin, c'est la mairie, c'est le gouvernement. Il pleut, que fait le gouvernement ? Et on en est toujours rendu là. Ces trois compagnons habitent notre quotidien. Et que dire de la honte ? Avec nos familles qui explosent. C'est compliqué. Quand on vous dit que Dieu est Père et que la seule image que vous avez du Père, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais aimé. Lorsque quelqu'un te dit, j'ai honte de mon père. Et avec ça, il faut que le Dieu soit le mien. Pas facile d'ouvrir une église dans une société où le seul couple marié, d'une première fois, c'est moi et mon épouse. Et de se dire, il y a quelque chose d'autre, une autre réalité à vivre. Mais la première des choses que nous devons réaliser, mes amis, c'est que nous sommes morts. C'est que nous sommes morts. Et c'est ça notre problème. Et c'est parce que nous sommes morts, parce que nous sommes séparés de Dieu, parce que nous sommes morts spirituellement, c'est pour ça que nos trois compagnons continuent à vivre avec nous. La honte, la peur et la culpabilité. Qui est celui qui viendra nous sauver? Dieu aurait pu décider, dans sa souveraineté, de terminer l'épisode de l'humanité là. Mais il ne l'a pas fait. Au chapitre 1, nous lisons que Dieu est créateur. Au chapitre 2, qu'il est législateur. Au chapitre 3, le verset 15, nous lisons qu'il est aussi sauveur. Il dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. De la généalogie de la femme Ève sortira le sauveur, celui qui couvrira notre honte, effacera notre culpabilité et nous délivrera de nos peurs. C'est celui qui vient. Et c'est le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu que nous aimons. C'est un Dieu qui est créateur, c'est un Dieu qui est législateur, c'est un Dieu qui est sauveur. Est-ce que vous le connaissez, ce Dieu-là? Est-ce que vous l'aimez? Qui est ce sauveur? Nous avons la réponse dans l'Épître aux Colossiens. Lorsque Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il, Jésus, vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Point. C'est lui notre sauveur. C'est Jésus-Christ. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. On parle bien là de la mort originelle, celle qui perpétue dans l'humanité lorsque nous sommes fils d'eux, Adam, dans une continuité historique. Il vous a rendu à la vie avec lui. Oh, mes amis. Jésus a fait plus que tous les prophètes. Quand Gautama Bouddha était là, il a dit, est-ce que tu te sens mort? Est-ce que tu te sens vide? Est-ce que tu cherches Dieu? Oui. Alors il dit, voilà, bah, essaye de faire cela, et ça c'est le chemin qui va te mener à lui. Quand Mahomet est venu dans le monde, il a dit, est-ce que tu te sens séparé de Dieu? Oui. Alors voici le chemin, et en marchant sur lui, tu le verras peut-être. Et Jésus vient dire, est-ce que tu te sens mort? Oui. Est-ce que tu as essayé de faire tous ces trucs-là, de prendre le chemin et d'aller trouver Dieu? Oui. Est-ce que ça marche? Non. Normal, tu es mort. Le problème, en fait, il est en toi. Tu ne peux pas te donner tout seul la vie si tu es mort. Tu comprends? Si tu es mort, il faut bien que quelqu'un te donne la vie. Ça va jusque-là? Les enfants, si vous êtes mort, la seule façon que vous reveniez à la vie, c'est que quelqu'un vous donne la vie. Bon, Si ton portable, il est mort, qu'est-ce que tu fais? Non, tu regardes le portable, tu dis, reviens à la vie. Reviens à la vie. Non? Ça n'existe pas, ça. Non, le portable, il est mort. Ton portable, il est mort, il est mort. Il n'y a plus de batterie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le branches. Et quand tu le branches, en fait, il y a du courant qui vient de là-bas. Là où il y a de la fumée, ça va? Et qui redonne la vie à ton mobile. Ça va jusque-là? Donc si nous, on est mort, il faut bien qu'on soit branché quelque part à quelque chose qui nous redonne la vie. Jusque-là, vous suivez? C'était tout l'enjeu de l'entretien de Jésus et de Nicodème. Lorsque Nicodème dit, vient de nuit, hein, parce que bon, il voulait pas faire de froufrou avec ses copains. Et puis il dit à Jésus, bon, on voit bien que tu es quelqu'un qui est assez extraordinaire, vu les miracles que tu fais. Okay. Et puis Jésus lui dit quoi? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir Dieu. Et lui, alors, il fait, alors là, qu'est-ce qui vient de me sortir? Si un homme ne naît de nouveau, alors lui, il s'imagine sa mère, tout, wow. Hein, vraiment? Jésus fait, non, c'est pas ça de quoi je parle. Il dit, tu es docteur et tu connais pas ces choses. L'esprit souffle où il veut. Jésus parlait de cette nécessité de naître d'en haut. À savoir que si tu es mort, il faut que quelqu'un te redonne la vie. C'est seulement quand quelqu'un te redonne la vie que tu peux ne plus être mort. Ça, c'est fondamental. Parce que Jésus fait plus que n'importe quel autre prophète. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui croit en moi, quoi? Vivra. Donc Jésus vient pour nous donner la vie. Il est celui qui est la vie, il est celui qui vient nous brancher nos batteries là pour nous refaire naître d'en haut. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec les trois compagnons? Eh bien, il s'en occupe à notre place. Regardez comment ce qu'il fait. La première des choses, c'est qu'il couvre notre honte parce qu'il est celui qui est médiateur. Le texte nous dit qu'il nous fait grâce pour toutes nos offenses. La justice, c'est quoi? C'est recevoir ce que vous méritez. Donc, par exemple, admettons, ce matin, vous êtes venu. Il y a un radar, là, du côté de Chinon? Oui. Ouais. Oui. Il est où? Il est... Juste après où? Juste après l'hôpital, voilà. Donc, admettons que ce radar-là, vous l'avez bien connu ce matin, et il vous a bien connu aussi. D'accord? Voilà. Donc, vous ne vouliez pas arriver en retard au culte, donc vous avez mis un petit peu le pied sur l'accélérateur et vous êtes fait flasher. Donc, la justice dit, si tu t'es fait flasher, tu payes. Normal. Donc, tu reçois un joli courrier dans la poste avec une belle photo, d'accord? Si tu la demandes, tu peux l'encadrer. Tu payes et tu perds des points. Donc, ça, c'est la justice. Donc, la justice, c'est tu reçois ce que tu mérites. Alors c'est marrant parce que, encore une fois, on râle contre les radars. Oh, il y en a marre, les radars. Mais le radar, il ne fait que montrer qui tu es. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors on râle. Mais non, mais le radar, il fait simplement montrer que ben, tu es quelqu'un qui roule au-dessus de la limite de vitesse. Je veux dire, il n'y a pas. C'est juste un fait. C'est juste, bon. Donc, quand tu le fais, ça flash. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que tu mérites. Autrement dit, le flash fonctionne, mais tu ne reçois rien dans le courrier. Alors des fois, ça arrive, puis on se dit, tiens, c'est pas encore venu, puis au bout d'un an, il y a prescription, donc on est tout content, ça y est. Alors, la grâce, c'est quoi? C'est recevoir autre chose que ce que tu mérites. Imaginez qu'à la place d'un PV, vous recevez dans votre boîte aux lettres, un colis avec des gâteaux de Noël et puis une lettre en disant, bon, on vous a vu, mais bon, c'est pas la peine, on s'en occupe. Vous avez peu besoin d'être couvert de honte, on s'en occupe. Et puis d'ailleurs, on vous fait grâce, et puis on vous aime bien, et puis on vous offre des gâteaux. Tu lis ça, tu te dis, waouh, ça c'est incroyable. Et Jésus nous fait grâce. Jésus nous fait grâce. Il nous fait grâce. C'est tout le sens de la parabole du fils prodigue. Vous connaissez la parabole du fils prodigue ? Où cet enfant quitte le foyer en embarquant un tiers de l'héritage, et puis il s'en va dans un pays lointain, il dilapide tout, et lorsqu'il se retrouve dans la misère, il comprend enfin qu'il est couvert de honte, il comprend enfin qu'il est pécheur, et donc il veut retourner vers la maison du père. Son problème, c'est quoi ? C'est qu'il a honte. C'est qu'il a honte. Parce que ce qu'il a fait, dans un environnement même culturel et sémitique, c'est comme s'il voulait poignarder son père dans le dos en disant « Je te considère comme mort, et d'ailleurs je te tue. » Comment est-ce que lui va pouvoir de nouveau affronter le regard du père ? Et le texte nous dit, lorsqu'il s'approche de la maison, le père court vers lui. Le père ne l'attend pas en disant « Ah, ben voilà, ça y est, c'est bien, formidable. » Bon, alors voilà, de là jusqu'au seuil de la porte, tu vas ramper sur tes genoux. C'est ce qu'avait fait le comte Fulcnera, vous savez, avec son fils. Sauf qu'il a fait ramper de tour jusque l'oche. Okay ? Puis quand il est arrivé devant son père, il était allongé par terre et il a mis son pied sur sa nuque en disant « Fils, c'est bien, tu comprends enfin les choses. » Non, là, dans la parabole du fils prodigue, le père sort de la maison, il court vers le fils et il l'embrasse. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est recevoir autre chose que ce que l'on mérite. Et Jésus est le médiateur, il est celui qui nous réconcilie entre nous et le père. Il est celui qui fait ce chemin-là avec nous et qui dit « Je connais mon père me connaît ». Et celui que j'aime, mon Père aime aussi. Ça va le faire, ne t'inquiète pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ça, c'est le message de la grâce. Le message qu'on n'a pas besoin de continuer à être couvert de notre sac de cendres. Dieu nous aime. Et Dieu veut venir à notre rencontre. Et Jésus est celui qui va faire le médiateur entre celui que nous avons offensé et nous-mêmes. Il est celui qui couvre notre honte. Il est celui qui est notre avocat. Il est celui qui prend notre défense. Mais il fait plus encore. Après avoir réglé le compte à ce premier compagnon qui est la honte, il s'occupe du deuxième et il efface notre culpabilité. Le texte nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en la clouant à la croix. » Le fait est que nous restons coupables de notre offense. C'était tout le dilemme de Luther. Martin Luther, réformateur, quand il lisait l'Écriture, il ne comprenait pas comment Dieu pouvait à la fois être juste et en même temps être bon. Il s'est enfermé dans un monastère et il a voulu vivre une vie de perfection. Il a vécu une vie d'ascèse très poussée, ce qui d'ailleurs lui a fait... Il a d'ailleurs subi beaucoup de difficultés après dans son corps parce qu'il avait vécu une vie de telle ascèse que son corps en avait souffert. Parce que pour lui, l'idée c'était de dire il faut que je sois perfectible devant Dieu. D'accord ? Plus il essayait d'être parfait, plus il se rendait compte qu'il était pécheur, plus il se disait mais si Dieu est bon, il ne peut pas m'accepter parce qu'il est juste. Ouais. Et c'est ce qu'on appelait le cercle infernal de Luther. Il disait si Dieu est bon et qu'il m'accepte moi comme pécheur, alors il n'est pas juste. Parce que s'il est juste et que moi je suis pécheur, il ne peut pas m'accepter. Vous comprenez ? Et s'il est juste, Il est obligé de me repousser. Mais la Bible dit qu'il m'aime, donc il va être bon. Donc comment Dieu peut rester bon et juste, tout cela au même moment et pour la même personne? La réponse, c'est la croix. C'est la croix. Nous avons enfreint la loi. Nous avons péché envers Dieu. C'est pas à nous de dire ce qu'il en coûte pour réparer l'offense. Parce que la réconciliation, elle est dans les termes de celui qui a été offensé. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ceux qui sont mariés, si un jour vous vous disputez avec votre femme, ce qui n'arrive jamais, okay, et que vous alliez la voir, et puis tu dis, chérie, c'est bon, je m'excuse. Et puis votre femme fait, c'est un peu facile. Et puis tu dis, oh, bah, tu exagères quand même, je dis, je m'excuse. C'est pas de la réconciliation. Vous tentez de vous réconcilier dans vos propres termes. La réconciliation est donnée lorsque votre épouse considère que la réconciliation est effectivement opérée. C'est-à-dire que c'est elle qui détient les clés de la réconciliation. Et c'est seulement lorsque vous avez admis ce pourquoi vous êtes désolé et que vous avez vraiment demandé pardon que la réconciliation peut s'opérer. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes coupables devant Dieu et c'est Dieu qui dicte les règles de la réconciliation. Maintenant, c'est compliqué parce que nous avons offensé un Dieu qui est infini. Donc notre dette, elle est infinie. Notre dette, elle est infinie parce que nous avons offenser un Dieu qui est infini. Alors qu'est-ce que tu vas pouvoir bien donner en compensation d'une dette qui est infinie? De l'argent, il en a plus. Des bonnes œuvres, c'est ce qu'il attend de toi. Vous comprenez le problème? Les autres, toutes les religions du monde, à part le christianisme, disent il faut que tu compenses. Mais comment est-ce que tu peux compenser une dette qui est éternelle et infinie? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça marche pas. Tu peux pas comprendre. Nous sommes des êtres finis. Il n'y a rien qu'on puisse apporter à Dieu qui permette de compenser ce que l'on a fait, puisque la dette, elle est infinie. La seule façon que Dieu reste bon et juste, c'est que lui-même paye la dette à notre place. Lui qui est infini prend une infinité de dettes sur lui. Donc il fallait bien que celui qui paye soit à la fois Dieu, qui est infini, mais il fallait aussi qu'il soit homme pour être solidaire de notre dette. Vous comprenez? Cet homme-Dieu, c'est Jésus. Et quand il meurt sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Lui qui est Dieu incarné, qui est infini, il prend sur lui une infinitude de péchés. À la croix, Dieu se substitue à nos fautes. Donc le christianisme, ce n'est pas une religion où on compense pour nos fautes. Parce qu'on comprend qu'on ne peut pas compenser pour quelque chose qui est infini. Vous comprenez ça? Le christianisme, c'est accepter que nous ne pouvons pas payer, mais que lui seul peut le faire à notre place. C'est pour ça que le christianisme, c'est une religion où au cœur du message, il y a la substitution. Celui qui était juste, nous dit Paul, est devenu péché, afin que moi, pécheur, je devienne juste. C'est un truc de malade. Que Dieu, qui est juste, accepte de devenir péché pour moi, afin que moi, pécheur, je sois déclaré juste devant Dieu. Et quand Dieu me regarde, il me dit, Maïté, tu es sans faute. Je te déclare sans faute. Vincent, je te déclare sans faute. Et toi, tu dis, entre nous, j'aimerais bien, hein, c'est gentil. Mais en fait, en vérité, ce n'est pas le cas. Je le sais que ce n'est pas le cas. Mais c'est ma prérogative, entendu Dieu, d'imputer quelque chose que tu ne mérites pas. C'est la grâce. Et donc, Dieu te déclare juste alors même que tu ne l'es pas. Tu comprends ça? Moi, je ne comprends pas. C'est un truc de malade. Que Dieu te déclare juste, sans faute, alors qu'on ne l'est pas. Mais c'est son droit. C'est son droit. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est le créateur, il est le législateur. C'est lui qui a les règles de la réconciliation. Et c'est parce qu'il aime son fils. Et que son fils est venu et il est mort pour nous, se substituer à nos fautes. C'est parce que le Père aime le Fils et qu'il considère que ce que le Fils a largement, largement compensé, tout ce que nous avons fait, qu'il nous aime. Autrement dit, c'est parce que le Père voit Jésus en toi et le sacrifice de Jésus en toi qu'il peut dire, Vincent, sa dette est réglée. Vous savez, le jour où on va arriver devant Dieu pour le jugement dernier, ce sera un jugement démocratique. Hein ? Il n'y a pas que les chrétiens qui passent par là, tout le monde passe par là. Un jour, tous les hommes vont ressusciter des morts et tout le monde passera devant Dieu. Vous allez arriver devant lui, qu'est-ce que vous allez lui raconter ? Vous allez sortir tous les reçus fiscaux en disant, vous avez vu, j'ai donné à la transmission oh, un paquet de fric, hein. Vous allez dire quoi ? Que vous avez fait beaucoup de BA, de bonnes actions ? Qu'est-ce que vous allez présenter devant Dieu ? Déjà, je veux dire, honnêtement, quand on verra Dieu, on sera par terre, entre vous et nous, quoi. Je veux dire, parce que ça sera majestueux, quoi. Et qu'est-ce qu'on va bien vouloir négocier avec lui, quoi ? Ouais, mais tu comprends, enfin bon, c'est-à-dire que, ouais, enfin bon... Moi, la première chose que je vais dire, j'ai dit, tu sais quoi ? Je ne mérite pas ta grâce. Je ne mérite pas ta grâce. Tout ce que j'ai fait, même de bien, c'est rien comparé à ton amour et ta grâce. Et moi, je serais le premier à lui dire ça. Je ne mérite pas ton amour. La seule chose que je sais, c'est que j'ai un avocat, j'ai un médiateur, j'ai un rédempteur, j'ai quelqu'un qui a payé pour moi, et c'est ton fils bien-aimé que tu connais. Et c'est Jésus qui va venir et qui va me prendre la main en disant, entre dans la voie céleste. Parce que je me suis substitué. C'est glorieux. Un jour, j'ai une de mes paroissiennes qui lisait la Bible avec une amie. Et quand elles sont arrivées à ce point-là, cette dame qui avait rencontré Christ... Elle a dit, mais vous ne pouvez pas dire ça aux gens. Vous ne pouvez pas leur dire ça. Vous ne pouvez pas leur dire qu'ils sont déclarés justes. Vous ne pouvez pas leur dire ça. C'est un scandale. Elle a dit, mais pourquoi c'est un scandale ? Parce que si les gens le réalisent, alors à ce moment-là, ils vont dire, ah ben c'est parfait, je peux faire ce que je veux. Vous devez continuer à ce qu'ils soient quelque part un peu coupables. Sinon, comment est-ce qu'ils vont obéir à Dieu ? J'ai dit, mais t'as rien compris. T'as rien compris à la substitution. Il nous a délivrés et il nous a effacé notre culpabilité. Elle leur dit, alors maintenant je comprends. Je comprends pourquoi vous, les protestants évangéliques, vous êtes toujours joyeux. Parce qu'en fait, vous dites merci. Eh oui, on dit merci. Merci le matin, merci à midi, merci le soir. Merci d'avoir fait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Merci d'avoir racheté ma culpabilité. Du coup, le deuxième compagnon, il dégage. Il en reste un troisième, la peur. Le texte nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, en parlant évidemment des dominations et des autorités spirituels qui sont sataniques, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il est vainqueur. Il est vainqueur sur notre ennemi. Il est vainqueur sur nos peurs. Il est vainqueur sur nos liens. Il est vainqueur sur nos addictions. Il est vainqueur sur nos anxiétés. Il est vainqueur sur nos émotions qui nous jouent des tours, toujours et encore. Parce qu'il est celui qui a vaincu celui qui nous tourmente. Nous vivons dans un terroir qui est empreint d'occultisme. Vous n'avez qu'à aller au Super U, et puis vous allez voir toutes les annonces qu'il y a, où on offre des services aux personnes pour les aider à cheminer dans leur parcours spirituel. Il y a quelque temps, j'étais avec un guérisseur du côté de Loche. Vous savez, c'est intéressant les guérisseurs et les magnétiseurs. Ce sont des personnes qui sont seules. Ce sont des personnes qui vivent dans la peur. Elles ont l'impression qu'elles ont reçu de Dieu un mandat pour sauver le monde. Que c'est à eux de vaincre pour les autres leur peur. Et je discutais avec ce magnétiseur, il en était à sa 5e tentative de suicide. Divorcé 3 fois. Et je dis, mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe dans votre vie ? Il me dit, j'y peux rien, c'est mon appel. C'est mon appel. Il dit, oh, j'ai bien demandé à Dieu de me libérer de cela. Il y a de cela un an, j'en pouvais plus. J'ai dit, arrête de me donner ces visions. Et Dieu m'a dit, j'ai encore besoin de toi. J'ai jamais vu quelqu'un autant tourmenté par le malin. Et c'est un gars qui vit planqué, il est dans la peur. Et il pense que c'est vraiment sa vocation de sauver le monde. Et j'ai dit, et qui vous sauvera ? Et qui vous sauvera ? Je dis, vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Parce que Jésus a vaincu celui qui vous tourmente. Vous-même, vous ne pouvez pas vous débarrasser de lui. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de quelqu'un qui est plus fort que vous, et vous savez qu'il est plus fort que vous. Sinon, vous ne seriez pas dans cet état-là. La seule façon que vous soyez délivré, c'est que quelqu'un que plus fort que Satan puisse lui botter l'arrière-train. C'est ce que Jésus a fait. Il a dépouillé, j'aime bien ça, hein, c'est vraiment mis à nu. C'est-à-dire vraiment, du coup la honte, c'est eux qui l'ont. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les amis, plus besoin d'avoir peur. Plus besoin d'avoir peur. Plus besoin non plus d'avoir peur de la mort. Vous savez, la mort, c'est démocratique, ça touche tout le monde. Et il y en a qui ont la peur de la mort. Mais nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous savons que la mort, c'est pas la fin. Et parce qu'il y a une vie après la mort. À chaque fois que je vais à un enterrement athée, je suis bouleversé. On lit des poèmes, on sort un album photo, ah, Marie-Thérèse, elle était sympa, on est bien c'est Madeleine. J'ai dit, mais honnêtement, c'est tout ce qu'on a à dire? Comme dirait Comte Sponsville, devant l'absurdité du cercueil, c'est tout ce qu'on a à dire? C'est fini, c'est dommage, c'est... J'étais avec une fille, tiens, de ton âge, qui a découvert sa maman... dans son salon, venait de faire un infarctus, 50 ans. On a été à l'enterrement, alors c'était bizarre, on était 15. Des rien que sur notre rang, on était 5. Il y avait 5 collègues là-bas à gauche, et puis tu avais la famille. Tu avais un frère, 2 mètres plus loin, tu avais une sœur avec son copain, 2 mètres plus loin, tu avais un père. Famille moderne. On a fait une cérémonie, ça a été torché en 25 minutes. Alors je suis sorti, puis j'ai lu le règlement intérieur des crématoriums, c'est très intéressant. Hein. Vous savez que ce n'est pas démocratique, hein. Si vous faites 1m80, c'est plus cher que si vous faites 1m75. Ça prend plus longtemps à brûler, enfin c'est un peu bizarre. Hein. J'étais devant la mort, il y a des tarifs, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et alors ils sortent de là, bon ben ouais, ben, c'était bien. Chacun rentre dans sa voiture et part. Je dis, c'est comme ça que vous vivez le deuil. La semaine d'après, je vois la fille, j'ai dit, ça va? Elle me fait, oui, j'essaie d'oublier le plus vite possible. J'ai dit, mais tu oublies pas ta mère! C'est pas possible de dire, elle n'a pas existé. Tant pis. J'ai dit, mais tu... Mais un jour, toi-même, tu vas devenir mère. Comment est-ce que tu vas vivre avec cette peur que tu essaies d'occulter, quoi? Alors on chemine, mais c'est dur. Mais nous n'avons pas peur de la mort. Parce que Jésus a vaincu pour nous la mort. Il nous a délivrés de nos peurs. En résumé, avec le péché, la mort nous a couverts de honte, de culpabilité, de peur, mais Jésus, lui, nous donne la vie. Il est la vie. Et il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. C'est celui qui vient. C'est celui qui vient. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? C'est le temps de l'Avent. Qui attends-tu ?